Les pieds sur terre, Sonia Grönlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Ce n'est pas parce que, chaque mercredi, nous prenons le pouls de la République dans les méandres de ses administrations que ça doit nous empêcher de raconter des histoires qui composent la vie des usagers, des patients, des bandits ou des victimes. Aujourd'hui, il y en a trois qui se déroulent presque en même temps dans trois villes de France. À Marseille, dans la mairie des 6e et 8e arrondissements, c'est l'histoire d'une dame qui a la chance d'avoir une vue splendide sur la Cité radieuse, le bâtiment mythique du Corbusier, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et voilà que catastrophe, pour elle en tout cas, on envisage de construire juste là, devant ses fenêtres, des tours gigantesques pour y faire plus de 1000 logements. Alors que fait la dame? Eh bien, elle proteste. Et qu'est-ce qui s'ensuit? Eh bien, vous devez écouter pour le savoir. Pendant ce temps, à la polyclinique médicale du CHU d'Amiens, la seconde histoire, c'est celle d'une toute jeune infirmière, Lucille Candela, qui, elle, ne proteste pas. Elle aurait bien des raisons, cependant, on ne connaît que trop le problème. Il n'y a en France pas assez d'infirmières ni d'infirmiers, car c'est un travail difficile, avec un salaire pas suffisamment attractif. Il s'ensuit que selon une étude récente de l'Union régionale des professionnels de santé, 62% des infirmières et infirmiers sont menacés d'épuisement professionnel. Lucille, elle, tient pourtant le choc et réagit avec douceur aux pressions, avec calme au stress et avec gentillesse aux impatiences du service. Mais tout de suite, une autre femme courage et son histoire poignante qui pourrait avoir croisé Lucille si elle n'était pas à plus de 300 km de là. Nous sommes à Auxerre, à côté du commissariat. Il a fallu à cette jeune femme menue, qui semble timide, plusieurs vaines tentatives pour être enfin reçue et entendue par les policiers. Et il a fallu qu'elle rencontre une policière, précisément d'Auxerre, qui l'a écoutée, puis confiée à une association partenaire formée à ce genre de situation. Elle s'appelle l'ADA. L'association départementale d'aide aux victimes d'infractions et à la réinsertion sociale. C'est là que nous l'avons rencontrée en train de discuter avec une juriste victimologue. Place de la République, saison 2, épisode 8, Pauline Mocor, Rémi Dibowski-Douatte et Jeanne Robet, femme courage.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Police Secours, bonsoir.
Bonjour, madame. Alors, dites-moi, expliquez-moi, à partir de quel moment vous avez commencé à subir ces violences?
En fait, la première fois où je l'ai vu violent, c'était pas après moi, et c'était le jour de la naissance de mon fils. J'étais encore anesthésiée et il a attrapé ma cousine par la gorge et il l'a virée de la chambre juste parce qu'elle était venue pour la naissance. Donc comme c'était la première fois, je l'ai excusée parce que je comprenais pas et il n'avait jamais été comme ça. Donc.
Et ça faisait longtemps que vous étiez...
Ça faisait un an qu'on était ensemble. En couple. Je suis tombée enceinte rapidement.
D'accord.
Et il est revenu le lendemain, il m'a dit qu'il voilà, il regrettait, qu'il ne sait pas pourquoi il a agi comme ça, et qu'on allait être heureux tous les trois, etc. Donc je l'ai excusé, et puis moi, il a commencé, ouais, peut-être voilà, quand mon fils il avait 3 mois. Et au début, il commençait à me montrer le poing, quand il voulait que je me taise. Et après, il a commencé à me pousser contre les meubles, contre les murs, ou quand il y avait une fenêtre ouverte pour que je me prenne dans le dos la fenêtre.
C'est dès que vous n'étiez pas d'accord avec lui lors de discussions?
Pas forcément, il y avait des fois il rentrait du travail et bah, il suffisait que j'étais en train de m'occuper des enfants ou de faire à manger, et ben je sais pas, il m'a regardé, il me disait « Ouais, tu fais la gueule ou quoi ?» et puis il partait en flèche, quoi.
Et ça a duré combien de temps?
13 ans.
13 ans de violence?
13 ans, ouais. Ben, je l'ai rencontré, j'avais 16 ans, je subis ça depuis l'âge de 17 ans. J'étais encore une gamine.
Violence physique, violence morale?
Ouais. Alors, violence physique, il les reconnaissait pas parce que à ses yeux, il me jetait contre les murs, contre les meubles. Et à ses yeux, c'est pas de la violence. C'est des disputes de couple. Il me disait, c'est pas de la violence parce que je te tape pas. Et honnêtement, même ça, je me disais, oui, remarque, c'est vrai. Est-ce que si j'irais porter plainte, est-ce que ça sera reconnu comme violence?
Et vous alliez chez le médecin? Après, c'est...
Jamais, j'ai rien montré.
Et donc le médecin de famille ignore totalement que vous avez été victime de ces violences?
Oui.
Des violences qui se passaient y compris devant les enfants?
Ça s'est toujours passé devant les enfants. Toujours.
Et il y en a combien d'enfants?
3. Une fois, j'ai voulu le quitter. Et en pleine nuit, minuit et demi, une heure, j'en pouvais plus. Et il a pris un couteau et il m'a dit, tu veux me quitter? Je tue les enfants. Il a pris le couteau et il est parti en direction de la chambre des enfants. Il y avait 2 enfants dans cette chambre. Et il a commencé à prendre la poignée, ouvrir la porte de la chambre. Avec le couteau, c'était un grand couteau de cuisine. Et là, j'ai eu peur, je me suis effondrée en larmes par terre. J'ai dit, fais pas ça, je reste avec toi. Et il a reposé le couteau et il m'a dit, maintenant, tu viens au lit avec moi. Je pense que mes enfants, justement, ils ont assez vu que j'avais souffert. Ils le comprennent. Enfin, mon grand le comprend très bien, en tout cas. Parce que mon grand, depuis 5 ans, il s'était mis contre son père à dire qu'il n'en pouvait plus de tout ça, qu'il me faisait trop souffrir, il en avait marre de me voir pleurer et qu'il voulait que je le quitte. Il avait dit à son père.
Et il a quel âge maintenant, votre aîné?
Et oui, ben, dans une semaine, il va avoir 15 ans.
Donc depuis qu'il a 10 ans,
ouais.
il s'interpose?
Oui, il s'est mis contre son père, oui. Et du coup, ben, depuis 5 ans, il est rejeté par son père. Après, ils sont plus jamais adressés la parole. Ils ne s'adressent plus à moi. Au début que je subissais les violences, j'en parlais à mon entourage. Quand mon fils il avait 1 an, un jour je suis arrivée chez ma mère pour boire le café et elle m'avait enfermé à clé chez elle. Elle m'a dit, tu vas plus le voir, j'ai peur qu'il te tue. Et puis moi je l'aimais cet homme, mais j'avais toujours l'impression qu'il allait changer, donc j'ai hurlé contre ma mère, j'ai dit laisse-moi partir, il a le droit de voir son fils. Je me suis sauvée de chez ma mère, et du coup après je me suis raisonnée, je me suis dit Laetitia accepte, mais t'en parles à personne, parce que les gens se mettent contre lui, soit tu le quittes. Mais quand il me tapait dessus, après, il s'excusait, il avait les larmes aux yeux, il me disait qu'il ne recommencera plus jamais, qu'il s'en veut. Et du coup, je me disais qu'il changerait peut-être un jour. Donc, je continuais à garder pour moi. Quand il était énervé, il me disait que c'était moi qui le rendais comme ça, ou des insultes, des une épave, des une bonne à rien, ou des choses comme ça. Donc, moi... Quand il me disait que j'étais une épave, le lendemain, je me maquillais, je faisais en sorte de toujours aller de l'autre sens le lendemain pour lui montrer que j'étais pas ce qu'il avait dit. Puis toutes ces années, j'ai tout fait pour lui plaire, pour qu'il arrête. Alors au début, je le croyais quand il me disait que c'est moi qui le rendais comme ça, je l'ai toujours cru. Et en fait, le 4 décembre 2016, après avoir regardé dans son téléphone, je me suis aperçue qu'il me trompait. Et j'ai juste pleuré, j'ai demandé pourquoi il m'avait trompée, c'est tout. Et il m'a attrapée, il m'a envoyé valser dans tous les murs de la maison. Et c'est de là que j'ai compris que c'est pas moi qui le rend comme ça, parce que là, c'est lui qui m'avait fait du mal en me trompant. Et c'est encore moi qui étais cognée, quoi. Mm-hmm. Quand il m'a jeté dans les murs et tout, j'ai vu le regard de mon fils, donc le premier... Il regardait son père avec une haine et j'ai vraiment cru ce jour-là qu'il allait se jeter sur son père. Donc là, je me suis dit que c'était plus vivable et qu'il fallait qu'on parte. Donc je l'avais juste quitté. Je voulais pas porter plainte, encore une fois. Il avait gardé les clés de la maison et tous les 2 jours, il arrivait, il pétait des plombs, il mettait le couteau sous la gorge devant les enfants. Des fois, à 7h30 du matin, il arrivait. Il me mettait contre le mur, couteau sous la gorge, je vais te tuer, je vois du rouge partout, je vois du sang contre les murs, je vais te tuer, il pétait des plombs. Voilà, au bout d'une demi-heure, il repartait de la maison, ni vu ni connu, mais mes enfants et moi, on tremblait de partout. Et j'emmenais mes enfants à l'école comme ça. Et donc, du 4 décembre jusqu'au 17 décembre, c'était comme ça. Tous les deux jours, il arrivait le matin, le soir. Donc, le 16 décembre au soir 2016, il est venu. Et il a pété un plomb et il m'a dit « De toute façon, il y a 3 légionnaires qui attendent mon appel pour te faire la peau si tu quittes pas Lyon. » Et je sais qu'il en connaît des légionnaires. Et de là, je me suis dit « c'est, il n'a pas à me demander de quitter Lyon. J'ai pas toujours à faire ce qu'il dit. Je ne suis pas une chienne. » Et donc là, j'ai appelé une cliente à moi parce que je n'avais pas d'amis, je ne connaissais personne ici. Et j'ai dit, écoute, voilà, tu sais pas ce que je vis et tout. Elle a entendu à ma voix que ça allait pas, elle a débarqué avec son mari. Et j'ai dit, ça fait 13 ans qu'il est violent avec moi, je n'en peux plus. Et donc elle m'a dit, mon mari t'emmène au flic, tu y vas maintenant. Et son mari m'a emmené à la gendarmerie. Et j'ai enfin tout dit, j'ai raconté mes 13 ans.
Il a été jugé quand?
Au mois de mars cette année.
En mars 2018?
Oui.
Il a eu quelle condamnation, lui?
18 mois de prison avec sursis, 36 mois de mise à l'épreuve, l'obligation de soins psychiatriques et 1 000 euros de dédommagement, pas plus.
France Culture, les pieds sur terre.
Bienvenue au centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie.
Le CHU Amiens-Picardie, bonjour.
Je vais venir refaire le pansement. D'accord. Ça vous fait mal? Non, impec. Vous avez trouvé quelque chose à regarder à la télé? Pas facile, hein? Bon, elle est là. Ça fait un petit bruit. Quand on s'ennuie, c'est bien. Vous toussez beaucoup, non? Non, ça va? J'ai l'impression que ça grésille dans votre voix. Ah, d'accord. Là, en dessous? Oh, vous êtes un peu rouge, hein. Vous voulez qu'on fasse un petit massage? C'est fait. Ouais, je vais aller vous chercher ce qu'il faut aussi. Heureusement que vous m'écrivez, hein. Ce monsieur, il s'exprime par écrit, il écrit très bien. Et puis après, oui, on essaie de lui poser surtout des questions simples pour lesquelles il peut hocher la tête. Et puis, il y a quelques mots, puis selon le contexte, il arrive facilement à se faire comprendre. Il est encore bien dans le dialogue, pour de ce côté-là, oui, c'est pas le cas de tous les patients, forcément. Il y en a qui vont avoir tendance à se replier, mais lui, pas de souci. Alors, je vais retirer celui-ci, regarder un petit peu ce qu'il y a en dessous. Oh, vous n'imaginez pas comme c'est beau par rapport à comment c'était lors de la dernière fois que vous avez été hospitalisé. Ça va beaucoup mieux. Oh là là, je suis impressionnée. Ça, franchement, c'est en bonne voie, là. Je vais bien nettoyer tout ça. Ça va? Juste les croûtes, on va bien nettoyer ici aussi. Oui.
Après, si tu pourras aller au 19.
Oui.
Il n'y a pas d'urgence. Pas
de. Bon, bah écoute, je vais passer voir juste après. Tu l'as vu ici? Comme c'est beaucoup mieux?
Ah, c'est beau, oui.
C'est beau, hein.
J'avais vu la dernière fois, c'est bien.
Hop. Alors, je sèche. Voilà. Hop, c'est tout beau, tout propre. Vous voulez savoir si vous sortez? On va voir ce que dit le médecin. Pour l'instant, il m'a pas dit que vous alliez sortir. D'accord, je vais aller lui demander. Je reviens tout de suite.
Vous courez dans tous les sens, là.
C'est un petit peu le ressenti qu'on a parfois, parce qu'on a des demandes de la part des médecins, de la part des patients, de la part de nos collègues. Et puis c'est vrai qu'en passant dans le couloir, on voit une blouse blanche, le patient il a tendance à appeler, même si c'est pas forcément nous qui en sommes en charge directement, comme on est séparés en deux secteurs pour les infirmières. Mais oui, effectivement, on est amené à courir un petit peu, à répondre à plusieurs demandes de manière simultanée. On rencontre des populations très différentes, avec des histoires, les gens viennent de tout horizon, de tout milieu, c'est quand même très très hétérogène. Et ce qui me plaît, c'est qu'il y a une partie relationnelle très importante, une partie d'écoute, mais également aussi beaucoup de techniques, finalement, selon les secteurs d'activité et puis selon les pathologies qu'on va rencontrer. Et c'est, voilà, moi, c'est quelque chose qui me plaît, personnellement. Je ne me suis pas penchée sur le métier d'infirmière en premier lieu. Je suis plutôt du côté littéraire, initialement. Mais les sciences m'ont beaucoup plu pendant mes jeunes années de lycée. J'ai passé le concours un petit peu plus tard parce que je n'étais pas décidée. Et puis, si vous voulez, à l'école d'infirmière, dès la première année, moi, ça m'a plu. Après, j'ai tout de suite accroché dès que j'ai pu faire mes premiers stages en milieu hospitalier. C'est comme plus un déclic, si vous voulez.
Vous accrochez, monsieur, hein. Je sais que ça fait très très mal, là.
Regardez, laissez-vous faire. Venez vers, attrapez la barrière.
Faire mal.
Non, bah faites-le tout seul si vous voulez pas qu'on vous fasse mal.
Allez.
Faut y aller, là.
J'y arrive pas.
Si, bah il faut y aller, monsieur.
Allez.
Je pense qu'il pousse sur la barrière.
Je ne vous y arrivez pas. Je vous fais ça.
Je nettoie autour. Hein. Il y a un petit saignement en haut. Oh, j'avais peur que ce soit plus profond, mais c'est déjà quand même bien entamé. Ah, tu l'as vu, toi, de toute façon, hier?
Oui, bah, hier, c'est moi qui ai déballé.
Ça va.
C'est dur.
Ouais, c'est dur. Parce qu'en plus, c'est compliqué de lui expliquer qu'on fait les choses pour son bien, alors que sur l'instant, tout ce qu'on fait, c'est générer de la douleur. J'ai choisi l'hôpital et j'ai choisi ce service en particulier parce que je trouvais qu'il y avait justement une variété très intéressante de patients, de pathologies rencontrées. Et puis, oui, je pense que j'aurais pas pu trouver mieux parce que on est vraiment au cœur de la prise en charge.
Voilà. Vous gagnez combien, vous ?
Autour de 1005-1006. Officiellement, bien sûr, on fait les 35 heures. Les postes, c'est 7h30, finalement, c'est les 3-8, vous savez. Et puis les nuits, c'est des nuits de 10h. Après, ce qui est fatigant, ça va plutôt être le rythme. Vous allez être 2 jours chez vous, revenir 4 jours, bosser matin, après-midi, nuit. Les changements de rythme, en général, sont un petit peu difficiles à vivre. Et encore, je vous dis ça, je suis relativement jeune. Parce que j'arrive à récupérer, bien sûr. Évidemment, du jour où la chose devient contraignante, où on n'a plus envie d'y aller, je pense que ça doit être compliqué pour beaucoup de gens qui ne sont pas forcément bien dans leur service. On manque quand même de moyens, que ce soit des moyens matériels ou humains. Parfois, il faut faire tout le couloir pour trouver une potence à perfusion roulante, alors que c'est quelque chose qu'on est censé avoir dans chaque chambre. Et puis, on se retrouve des fois effectivement à courir après du matériel, ou alors par exemple, quelque chose qui arrive assez fréquemment, bah c'est le service d'en face qui nous téléphone. Est-ce que vous pourriez nous dépanner tel ou tel médicament ? Donc ils viennent le chercher, ou on fait des échanges comme ça, si vous voulez. Et puis au niveau humain, effectivement aussi, parce que finalement, il faut que les emplois du temps tournent pour tout le monde, mais qu'on ait suffisamment de repos. On sent que ça coince quand il y a quelqu'un qui est en arrêt, si vous voulez, parce qu'on est rappelé pour revenir travailler pendant nos repos, de ce fait. Donc les heures supplémentaires s'accumulent à ce moment-là. Et parfois, ça conduit vraiment à l'épuisement.
Vous en avez déjà eu de l'oxygène, madame ?
Non.
Bon, bah vous respirez par le nez, et puis c'est tout. Ça y est, ça va comme ça, ça vous sert pas de trop ?
Non, non, c'est bon.
Très bien, vous le sentez là, dans le nez ?
Oui. Bon.
Hop, à tout à l'heure.
D'accord, merci.
Ville de Marseille vous remercie de bien vouloir patienter. Nous allons donner suite à votre appel.
Mairie 6-8, bonjour.
Il y avait un ordre d'arrivée.
Ah, c'est ce que j'ai posé comme question.
Mais monsieur, c'est le premier. Moi, je suis la deuxième. Il faut demander qui est dernier quand on arrive.
Je vais demander de vous noter, s'il vous plaît, selon l'ordre d'arrivée.
Voilà. Monsieur, premier.
Allez, s'il vous plaît.
Donc ici, on est à la mairie du 8e arrondissement. On a la possibilité cet après-midi de rencontrer le commissaire enquêteur. À ce que je comprends, qui vient écouter ce que les gens concernés par cet immense projet ont à en dire. Et s'ils sont pour, s'ils sont contre, et pourquoi, quels sont les bémols qu'ils mettent à ce projet. Voilà. Donc plus qu'écrire sur un papier, pouvoir rencontrer le commissaire et lui dire de vive voix, ça me paraissait important. À l'endroit où j'habite, il y a une tour de 54 mètres qui va se construire entre Le Corbusier et moi, donc je ne verrai plus Le Corbusier. Et Le Corbusier, ça fait plus de 20 ans que j'habite ici, j'y suis de plus en plus attachée. Je le prends en photo dès qu'il y a un reflet différent, dès qu'il y a un soleil différent, dès qu'il repeigne tous les panneaux colorés. Donc voilà, je monte en haut, je prends voilà, tout ce qu'on voit de là-haut, les cheminées en fait. Ça, moi, c'est un bâtiment, plus je le vois, plus je m'y attache et plus je l'aime. Et l'idée que je viens de découvrir, parce que je n'avais pas réalisé que ce serait vraiment de cet axe de vue, donc je viens de m'apercevoir qu'on ne le verrait plus. Oui, ça me fend le cœur. Il me semble que le projet tel qu'il est défini pour mon quartier à Sainte-Anne va faire venir un afflux de personnes que pour l'instant le quartier n'est pas capable d'assimiler et de gérer. Il y a trop de circulation, pas assez de places de parking, pas assez d'écoles. Il y a des espaces verts et tout ça, ça va disparaître. Donc si c'est pour transformer nos quartiers qui sont encore agréables à vivre en zone polluée à très forte circulation et sans un arbre, ça me paraît bien dommage et bien gâcher ce qui existe actuellement.
Alors moi aussi, je suis attachée au Corbusier, mais il est en face, moi. Je suis de l'autre côté de du Michelet.
D'accord.
C'est quand même un endroit spécial parce que ce fait un peu communautaire, l'esprit qu'il y a, par exemple les gens qui habitent au Corbusier, il y a une association des habitants, c'est pas des propriétaires. Je trouve que c'est important. Ça veut dire que les gens sont concernés. Et même je vois dans l'esprit de ce qui se passe l'autre jour, des amis me disaient, bah tiens, il y a quelqu'un de l'immeuble qui est décédé. Ça fait un petit moment qu'il habitait là. Et ben les gens en bas se sont rassemblés pour planter un arbre dans le jardin du Corbusier en mémoire de quelqu'un qui y a vécu. Ben je trouve que c'est une vraie vie. C'est pas des immeubles où on a des proprios qui cherchent des locataires pour gagner de l'argent. Moi encore, comme mon immeuble c'est assez vieux, c'était dans les années 60, il y a un truc qui est sympa, c'est le séchoir. Et je trouve ça génial d'avoir un séchoir. C'est là où j'ai rencontré des nouveaux voisins, en étant son linge. Avant, les gens allaient au lavoir, ils se rencontraient. Ben, un séchoir, c'est tellement intelligent. Comment font les gens qui n'ont pas de séchoir? Ben, ils ont une machine à laver puis une machine à sécher le linge. C'est terrible, non? Voilà.
Ce que j'aime bien au Corbusier aussi, en fait, là, quand on parle jardin, c'est qu'ils ont un jardin potager et puis ils ont fait plein de bennes pour recycler les épluchures, que ce soit les plantes vertes qu'on a enlevées de son balcon, voilà, des choses comme ça. Donc c'est tout un programme et effectivement une vie commune qui est assez extraordinaire.
Oui, qui existait à l'origine dans l'esprit du Corbusier.
Ah, vous avez rendez-vous finalement?
Ah, d'accord. Et moi, j'ai pas pu avoir rendez-vous. Ça, c'est bête, hein. Peut-être qu'elle avait réservé, je sais pas.
Je vous donne peut-être le registre en attendant, parce qu'on voyait comme il y a beaucoup de monde. Dès que le registre est libre.
Merci, c'est gentil.
Il y a quelqu'un qui utilise le registre, je vous la mets juste à
l'heure. Très bien, merci. Parfait, super, merci.
Vu le nombre de constructions neuves et voiries, bus, métro, tramway en vue, je demande que la ville inclue une obligation d'aménagement de jardin, potager ou non, en toiture, terrasse, de manière systématique, et qu'elle en exige l'entretien par les occupants. Il y a eu des arbres coupés. Oui ?
Est-ce que je peux vous prendre le registre si vous ne voulez pas écrire de requête ? Parce que j'ai une dame qui attend.
Ah, il y a une dame qui attend, ben alors bien sûr. Puis il y a les constructions là où il y avait Renault, là aussi sur le Michelet, près du Corbusier. C'est ça aussi que je voulais dire. Parce que j'habite en face, si je ne vois plus la mer, c'est la cata. Bon. J'habite en face le Corbusier, à la cravache. Et donc j'ai la cravache sur la gauche et la mer au milieu. Donc je vois les couchers de soleil sur la mer et les voiliers, je vois si la mer est agitée, tout ça. Je trouve ça formidable. C'est parce que j'habite au dernier étage aussi, je suis une privilégiée. Les gens qui sont au quatrième, ils voient que des immeubles. Et si des immeubles viennent s'élever devant moi, ça sera difficile, forcément. Je pense qu'à chaque fois qu'on construit devant les gens, c'est comme ça. C'est vrai, hein, quand on a une vue, la perdre, c'est terrible. Hein.
La personne qui est à l'intérieur, là, c'est la dernière.
Mais alors, je ne sais pas, les gens là qui prennent les décisions, est-ce que ça a de l'impact, ce qu'on fait là, par exemple? Qui c'est qui prend les décisions?
En fait, vous avez posé une requête sur le registre. Oui. Le truc, c'est que votre requête va être étudiée, en fait, par les commissaires enquêteurs. Et si jamais il y a beaucoup de requêtes, en fait, qui sont contre un projet, le projet peut être revu, quoi. Après, il y a des avis, en fait, des commissaires enquêteurs qui vont être d'avis favorable, défavorable ou favorable avec des réserves. Donc du coup, ça va entraîner des modifications de certains projets, quoi. Voilà. Donc pour une mairie de secteur, ouais, c'est quand même, ça ressemblait quand même beaucoup de gens. Voilà.
Ils vont nous mettre à la porte, là. C'est les 6 heures, ça va fermer. Bon, je sais pas qui a finalement le dernier mot, parce que chez les promoteurs, ils ont quand même pas mal d'argent.
C'était Place de la République, saison 2, épisode 8, Femmes, Courage, au pluriel, un reportage de Pauline Mocor, Rémi Dibowski-Douatte et Jeanne Robet, réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci au commissaire Thomas Boudot, au capitaine Dilulo, à Marie-Laure Boire, à Séverine Collado, à Catherine Maupetit-Gel et à la jeune femme qui a accepté de témoigner. Merci à l'hôpital, à Sylvie Cochefer et à Lucille Candela. Et à la mairie des 6e et 8e arrondissements de Marseille, à Frédéric Amarité, à Raphaël et à Yves Morène, le maire de secteur. C'est Jeanne Delecroix, l'attachée de production des Pieds sur Terre. Et c'est Nino Lima, notre stagiaire.